Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishaya Sayag. Traité Betza, page 27, DAF Kavzein.
Bonjour à tous, c'est DAF est clair, Betza Kavzein. Rabbi Yehuda Nesiya avait un Bechor à faire vérifier. Il l'a envoyé à Rabbi Ami pour qu'il le vérifie pendant Yom Tov. Rabbi Ami pensait que c'était interdit de le faire, comme Rabbi Shimon lui a dit Rabbi Zrika, mais sachant que c'est une marchoquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Après, comme Rabbi Yehuda, donc c'est permis de le faire pendant Yom Tov. Cet animal a été envoyé devant Rabbi Yitzhak Nafra et il lui aussi pensait ne pas le vérifier, puisqu'il pensait comme Rabbi Shimon lui a dit Rabbi Yirmiyah. Mais tu sais bien que la lacha, quand c'est Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, la lacha comme Rabbi Yehuda, donc ça devrait être permis. Dis à Rabbi Abba, Rabbi Zrika, pourquoi est-ce que tu n'as pas laissé ses chachamim le faire comme Rabbi Shimon, c'est-à-dire de ne pas vérifier? Il lui a dit, pourquoi est-ce que c'est quoi cette question? Toi, tu as entendu quelque chose à ce sujet? Il a dit, moi, j'ai entendu que Rabbi Zrika dit que la lacha comme Rabbi Shimon. Il y avait là-bas un élève qui a entendu cet échange. Il a dit, ah, j'aimerais bien aller écouter cette halakha directement de Rabbi Zera. Quand il est arrivé en Eretz Israël, il est parti lui poser la question, est-ce que toi tu as dit que la halakha était comme Rabbi Shimon? Il a dit, non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que ça serait logique de dire que la halakha est comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Puisque dans notre Mishnah, le langage utilisé, c'est qu'on n'a pas le droit de l'utiliser parce que Enzemina Mouchan, et ce même langage est utilisé par Chachamim. Donc je vois que Chachamim, au pluriel, pense comme Rabbi Shimon. Donc je pense que la halakha, logiquement, devrait être comme Rabbi Shimon. Demande la Gemara, bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Yosef me dit, venez, je vais vous faire écouter quelque chose qui a été dit par des cordes épaisses, c'est-à-dire que c'est des anciens Chachamim qui ont dit ça. Rabbi Shimon ben Pazi, au nom de Rabbi Shimon ben Levi, au nom de Rabbi Shimon ben Shaul, au nom de Rabbi, au nom du Kaal Kadosh de Yerushalayim, c'était un groupe de Tanaïm, qui ont dit au nom de Rabbi Shimon ben Menasya que la Lacha est comme Rabbi Mia. Mais avant d'expliquer ce que la Gemara nous dit, comment la Gemara pose une question, comment est-ce que tu peux dire que le Kaal Kadosh de Yerushalayim a dit au nom de Rabbi Shimon ben Menasya quoi que ce soit, sachant qu'ils étaient plus âgés que lui? Et là, nous dit la Gemara, eux l'ont entendu s'exprimer à ce sujet et ils lui ont dit, le Kaal Kadosh de Yerushalayim, ils lui ont dit, ce que tu dis, toi, c'est comme Rabbi Meir. Quel Rabbi Meir? Il est marqué que celui qui fait la shrita d'un Bechor sans avoir demandé l'avis de l'expert. Et seulement après, il montre le défaut à l'expert. D'après Rabbi Yehuda, on a le droit de le consommer. D'après Rabbi Meir, on a le droit de le faire, puisqu'on lui a fait la shrita alors qu'on n'avait pas le droit de le faire. La Gemara pense que, et déduit de là, que Re'iyat Bechor, la vérification d'un Bechor, c'est quelque chose de conséquent. C'est-à-dire, c'est pas simplement savoir quel était son statut, c'est grâce à la vérification de l'expert qu'on va créer son statut. Et c'est pour ça que, quand on lui a fait la shrita, son statut était interdit. Et donc, maintenant, on est en train de créer son statut, mais maintenant, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir est interdit. Par contre, vérifier une tréfa, c'est simplement vérifier ce qui était déjà statué, seulement on n'avait pas le savoir, donc il fallait le vérifier, et c'est pour ça qu'on peut le faire même après la mort. Et donc les Chachamim, ce groupe de Tanaïm de Yerushalayim, on dit Rabbi Shimon ben Menasya, on comprend que Rabbi Meir et Rabbi Shimon disent la même chose, puisque c'est tellement conséquent la vérification de l'expert. C'est pour ça que faire la shrita et après demander l'avis à l'expert, c'est interdit, et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas le demander pendant Yom Tov. Dit Abaye, mais qui t'a dit que c'est ça la marloquette? Peut-être que non. Peut-être que la marque était, est-ce que cette personne doit être punie puisqu'il a fait quelque chose qui lui était interdit? Comme c'est marqué au nom de Rabbi Yochanan. Si le défaut qui a été découvert, en fin de compte, c'est quelque chose qui est dans l'œil, un dukin shebaim, c'est quelque chose qui est dans l'œil, tout le monde est d'accord qu'il est interdit de le consommer. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver après le décès de l'animal. Et c'est pour ça que ça n'est pas une preuve que c'est existant du vivant, et c'est pour ça que c'est interdit. La marloquette, elle est pour un autre défaut qui n'a pas le lien direct avec la mort. Rabbi Meir pense qu'on lui interdit parce que ça serait par rapport à ce défaut qui est dans l'œil, on lui interdit aussi celui-ci. Rabbi Yehuda pense qu'on ne fait pas de parallèle. En tous les cas, la marloquette est donc, en termes de xéra, est-ce qu'on lui interdit ou pas? Et donc, on peut comprendre que la marloquette est seulement une réaction à sa mauvaise conduite d'avoir fait la shrita sans avoir demandé l'avis à l'expert. Rabbi nous dit que on a une preuve dans ce sens de la Mishnah, puisque Rabbi Meir nous dit pourquoi est-ce qu'il est interdit, puisque il n'a pas demandé l'avis à l'expert. C'est machma que c'est une réaction à son manque de mauvaise conduite, et c'est pour ça que c'est seulement un knas. La Gemara nous raconte qu'Ami Vardina, c'était celui qui était responsable de vérifier les Bechorot et donc de décider si on a le droit de leur faire la shrita ou pas. Yom Tov, il ne faisait pas de vérification. Son mandat à Rabbi Ami, pourquoi il fait ça? Il leur a dit, il a raison. Yom Tov, on ne fait pas les vérifications, comme Rabbi Shimon. Ah, demande la Gemara, mais Rabbi Ami lui-même faisait les vérifications. J'ai la Gemara, non, c'est faux. Rabbi Ami vérifiait la présence du défaut depuis la veille de Yom Tov. Mais pendant Yom Tov, il vérifiait, il posait la question à la personne, mais comment ce défaut est arrivé? Comme l'histoire de Rava, quelqu'un est venu le voir juste avant Yom Tov, quand Rava était en train de se laver les cheveux. Rava a vu l'animal, il a vu le défaut, il lui a dit « reviens demain, maintenant je ne peux pas te répondre ». Le lendemain, il lui a dit « dis-moi, comment est-ce que c'est arrivé ?» Il lui a dit « écoute, il y avait la nourriture, derrière un endroit il y avait beaucoup d'épines, et quand il s'est frotté à cet endroit pour arriver à la nourriture, c'est pour ça que ça lui a percé la lèvre, et c'est pour ça qu'il a un défaut ». Rava lui a dit « est-ce que c'est toi qui as fait exprès ?» Il lui a dit « non, c'est pas moi qui ai fait exprès ». Donc on voit de là que c'est pas simplement qu'il a un défaut, il est interdit de lui causer un défaut. Ben, mettez-nous, on sait ça, dit la Gemara. Dans le passage, c'est marqué « Moum, lo yebo ». Donc on comprend qu'on n'a pas le droit de faire un moum. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de causer un moum, parce qu'il a marqué kol moum, donc même un défaut indirect, c'est interdit. Nous dit la Mishnah, un animal qui est mort pendant un temps, qu'on n'a pas le droit de dépasser parce qu'il est moukhtseb. Une fois, on a posé la question à Bitarfon au sujet d'un animal qui est mort, et au sujet d'une khala, afrachat khala qui est devenue impure, et il est parti poser la question de Ptahimidrash, on a dit que c'était interdit de les bouger. Nous dit la Gemara, cette Mishnah qui est ramenée sans auteur, c'est une stam Mishnah, c'est-à-dire que c'est une halakha. Est-ce qu'on pourrait dire que ça va à l'encontre de l'avis de Rabbi Shimon? Puisqu'on a une fameuse marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, est-ce qu'il y a un interdit de moukhtseb? Rabbi Shimon nous dit qu'on a le droit de couper pendant Shabbat toutes sortes de nourriture devant un animal et on considère pas ça comme une tircha, comme une fatigue qui n'est pas liée à la journée, alors que, et mis à part ça, il nous dit qu'on a le droit de couper, de trancher et de mettre en morceau un animal mort pendant le Shabbat pour le donner en tant que nourriture au chien. Abuda lui interdit puisque cet animal n'est pas mort avant Shabbat, il est moukté puisque je ne pensais pas l'utiliser de cette manière pendant Shabbat. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, un animal mort est moukté. Dans la Mishnah, on voit qu'un animal mort n'est pas moukté. On dit la Gemara, on pourrait associer la Mishnah à la vie de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est d'accord que si jamais cet animal est mort subitement, donc il n'y avait aucune chance qu'il meure pendant Yom Tov, tout le monde est d'accord que, même Rabbi Shimon est d'accord qu'il est moukté. On dit la Gemara, ça peut aller seulement d'après un avis. Mar Baramemar, qui a dit au nom de Rava, que dans le cas où l'animal est mort subitement, donc il n'y a aucune chance qu'il ait pensé à l'utiliser de cette manière, là il est moukté, on peut comprendre. Mais d'après Mar Bereda Yosef, qui lui aussi nous a dit au nom de Rava, il nous dit que même dans ce cas-là où il est mort subitement, Rabbi Shimon pense qu'il n'est pas moukté. Comment est-ce qu'on pourrait associer les deux enseignements? Répond la Gemara. Chez nous, on parle d'un cas où l'animal était un korban, et c'est pour ça qu'il est moukté, même d'après Rabbi Shimon, puisqu'il n'a aucune utilisation. La Gemara, la preuve, c'est qu'on parle de chala, et on parle de l'animal. De la même manière que la chala kadosha, l'animal aussi est kadosh. Ah, nous dit la Gemara, on parle béhémet, tu as raison, on parle d'un animal kadosh. Et donc c'est la seule raison pour laquelle il est moukté. Et donc ça va à l'encontre de ce qu'on a dit auparavant, d'après un des deux avis qui disait que l'animal ne serait pas moukté. Quand il est mort, l'animal serait moukté, même s'il est mort subitement. C'est déjà une raison pour dire qu'il est moukté. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire qu'on parlait d'un cas où l'animal est kadosh? Pour la Gemara, on parle d'un cas où l'animal est mourant. Et donc tout le monde est d'accord que cet animal n'est pas censé être moukté d'après Rabbi Shimon, parce que de toutes les façons il est utilisable et parce que j'ai l'intention de l'utiliser. Et la seule raison pour laquelle il est moukhtse, c'est ce qui est marqué dans notre Mishnah. Dans la Mishnah, il est marqué que Yom Tov, on ne peut pas s'associer pour l'acquisition d'un animal, mais on peut le faire avant Yom Tov. Si jamais on ne l'a pas fait pendant Yom Tov, on peut faire la shrita de l'animal et on partage la viande entre les personnes. La Gemara explique tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas s'associer? Nous explique la Gemara de définir une somme que chacun devra payer et de définir le prix de l'animal, c'est interdit. Ah, demande la Gemara, alors comment est-ce que tu espères qu'ils vont faire? Ils vont récupérer un animal sans savoir le prix, sans savoir comment décider au final quel est le prix, combien chacun va payer. Nous dit la Gemara, non, on va amener deux animaux, l'un à côté de l'autre. On pourra donc évaluer le lendemain, même après avoir dépecé et démembré l'animal. On a un autre animal qui est encore vivant, et celui-là qui est encore vivant, on peut lui donner une valeur, et donc on aura une valeur à partager. Et comment est-ce qu'on va partager? On peut partager en pourcentage. On ne peut pas partager en somme, mais en pourcentage. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. L'Agma s'est posé la question, est-ce que l'Alakha était comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yehuda? On a essayé de ramener une preuve de Kal Kadosh et Boushalaim et de faire une parallèle avec Rabbi Meir, ce qui a été réfuté au final, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda au sujet de quelqu'un qui a fait la Shrita avant d'avoir demandé l'avis à son expert, c'est est-ce qu'il sera puni sur ça ou pas. Au final, on a vu qu'il était interdit de vérifier un animal pendant Yom Tov, bien qu'il ait interdit de le vérifier. Mais si on a vu le défaut avant Yom Tov, on pourra seulement faire des vérifications techniques le lendemain, voir comment c'est arrivé. Il est interdit de causer un défaut à un animal, et si on l'a causé, l'animal est aussi interdit. Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. Un animal qui est mort pendant Yom Tov subitement, marloquette, est-ce que d'après Rabbi Shimon il est moukté ou pas? Un animal qui allait mourir, tout le monde est d'accord que d'après Rabbi Shimon il n'est pas moukté. Un animal qui est kodesh et qui est mort, d'après tout le monde, il est défini comme moukté. D'après Rabbi Yehuda, de toutes les manières, il est moukté tant qu'il ne l'a pas désigné explicitement en tant que nourriture. Parler d'argent pendant Yom Tov pour définir le prix d'un animal, c'est interdit, mais on peut mettre deux animaux l'un côté de l'autre et donc avoir pour le lendemain une échelle de valeur après Yom Tov et on pourra le vérifier. Et le partage qui sera entre les personnes qui seront associées, c'est un partage en pourcentage et non pas en somme. Le DAF est clair, au Hachem, et à demain, Bezrat Hachem.